Et vous écoutez France Culture. Il parlait d'empreintes délibérées, de recueillir l'âme en creux dans le plâtre. Franck Manuel, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui reçoit ce dimanche le romancier, poète et dramaturge Franck Manuel à l'occasion de la sortie aux éditions Anacharsis de son roman À creux perdu, consacré au personnage d'Eugène Petit-Colin, figure mythique après Fragonard de l'école vétérinaire de Maison Alfort, véritable génie de l'empreinte anatomique et histoire d'une héros d'une histoire familiale insensée. Chronique en second temps d'émission, signé Sixtine Audebert et Fausto Fazulo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre aujourd'hui aux confins de plusieurs domaines, de plusieurs territoires, le fantastique, l'horrifique, l'histoire des sciences, le graphisme, l'artisanat, enfin beaucoup de choses. Une émission proche de celle que nous réalisâmes il y a quelques années avec Nathalie Latour, la reine des cires anatomiques. Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas de cire anatomique, c'est même, je veux pas dire l'ennemi, mais enfin le face-à-face, le contestataire de la cire anatomique. C'est Eugène Petit-Colin que l'on découvre grâce à vous, Franck Manuel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu de loin à Mauvais genre. On est très, très heureux de vous avoir avec nous. Je dis qu'il y a une sorte d'ennemi, c'est beaucoup dire, mais c'est quand même l'antagoniste de la cire anatomique, le Petit-Colin dont on va parler.
Oui, alors c'est moi qui lui prête cette qualité.
Nous sommes victimes des romanciers.
Il a pratiqué des cires anatomiques, mais je trouve, comme il s'est, en fait, l'évolution de sa carrière va vers le plâtre, et donc j'ai trouvé intéressant de me dire que finalement il s'opposait à ce qui était une mode de l'époque pour essayer d'inventer des nouvelles techniques, et il fallait après trouver des motivations à ça, et donc l'idée c'était que la cire était une tricherie et le moulage une vérité, en fait, c'était un peu l'idée.
Alors vous êtes avec nous parce que ce personnage, vous lui donnez quand même une stature, une apparence, un mystère assez extraordinaire. Donc dans ce roman chez Anacharsis, À creux perdu, roman qui s'intègre à toute une grande série qui est une sorte de méditation littéraire sur la carne, la chair, la matière dans toutes ses formes et ses apparences. Et on va donc découvrir avec vous cet étonnant personnage qui est historique.
Oui, qui a existé, oui.
J'ai récupéré sur Internet une thèse qu'on peut télécharger avec des photos. Donc, le personnage a bien existé, mais après, ce que vous en faites, c'est vous. Ça n'appartient qu'à vous. Bah, c'est un travail littéraire.
On n'a pas d'informations, en fait, très peu, si ce n'est sa naissance, sa date de mariage. En fait, il y a un état civil et ses œuvres. Et on n'a rien de plus, sauf une photo qui a été découverte pendant l'écriture du roman. Et donc, du coup, il a fallu tout inventer le concernant. Donc, j'ai fictionnalisé complètement le personnage de Eugène Petit-Colin, en essayant de barricader autour tout ce qui concernait l'école où il travaille, sa jeunesse, etc., par une documentation assez nourrie.
Et un style et une écriture dont on va également parler. Vous serez confronté, non pas à Fragonard, mais à Sixtine Audebert. Bonjour.
Bonjour François.
Votre actualité, comme on dit toujours.
Mon actualité, je pense que Fausto, on peut annoncer plutôt ton actualité.
Vas-y Sixtine.
Vas-y. L'actualité de Fausto. Bonjour Fausto.
Bonjour.
Alors, l'actualité
de Sixtine, en ce début mai, beaucoup de choses. Un nouveau numéro mensuel de Mad Movies qui sort, consacré à Civil War. Et puis également un hors-série dédié aux films qui ont pour thématique toutes sortes de diableries, sorcelleries et malédictions. Sous forme de best-of, dans lequel on déroule une liste évidemment subjective des films qui ont marqué de leur empreinte saillante ces sous-genres, puisqu'en fait ils sont plusieurs, et qu'on a essayé d'aborder avec ce sens de la diversité qui, je pense, nous caractérise.
Ben, tout à fait, je confirme, sens de la diversité, d'autant plus que le cinéma et le diable, on commence avec les diables sautillants avec des tridents, comme il y en a un peu chez Méliès ou à l'époque du Muet, jusqu'à des personnages peut-être plus inquiétants.
Oui, oui, c'est ça. Puis ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que ce filon n'a jamais été, en fait, ne s'est jamais vraiment étiolé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des films qui s'intéressaient au diable de près ou de loin. Alors qu'on le sait, le fantastique est parfois cyclique, fonctionne par vagues, il y a des modes qui vont, qui viennent. Or là, en ce qui concerne la thématique, justement, plus ou moins liée au diable, on me suis rendu compte qu'elle a toujours été vivace au sein de la production, en fait, de genre.
Et que, par exemple, à la Universal, on ne va pas faire une émission sur ce sujet, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il n'y a pas, parmi les monstres de la Universal, il n'y a pas le diable.
Non, c'est vrai, mais on peut dire que d'une certaine manière, une sorte d'esprit diabolique infuse aussi certaines de ces créatures. Donc en fait, le diable est toujours là, en vérité, même quand on ne le voit pas.
Et surtout,
il est peut-être avec nous aujourd'hui sur ce plateau, je ne sais pas.
Qu'il se manifeste avant l'émission. Vous croyez au diable, Franck Manuel ?
Pas vraiment, non. Mais je cherche dans les détails.
Et vous vous intéressez au cinéma fantastique, diabolique et autres ?
Pas de très près. Mais oui, j'ai vu pas mal de films d'horreur.
Très bien, film d'horreur, livre d'horreur, Acre perdu, votre dernier livre chez Anacharsis, c'est au cœur de l'émission d'aujourd'hui. Mais avant, on va essayer de voir qui vous êtes. Si vous n'êtes pas le diable, vous êtes quand même Franck Manuel, c'est ce qui nous intéresse. Soit Laurent Polleret, ne me demandez pas plus, mais c'est vrai que le sentiment d'inquiétude est là. Merci, cher maître. Alors, Franck Manuel, on a quelques renseignements sur vous quand on se promène sur Internet. Alors, il y a la dimension romanesque, comme quoi vous avez travaillé comme facteur, pas le facteur cheval, en essayant pour payer vos études de lettres. J'ai lu ça sur le site d'Anacharsis. Alors, plus proche de ce qui nous concerne aujourd'hui, vous avez fait une thèse littéraire sur les pronostications joyeuses. C'est quoi les pronostications joyeuses?
Alors, c'est très vieux, mais les pronostications joyeuses, c'est un genre littéraire, même si le terme est un peu impropre pour l'époque, qui se déploie de la fin du 15e à peu près à la première moitié du 7e siècle dans toute l'Europe, et qui en fait ce sont des parodies de textes prophétiques. Alors il y en a de très connus, puisqu'il y a la pronostication, la Pantagruélienne, une pronostication de Rabelais. En fait, je me suis trouvé un peu par hasard sur la route des pronostications, puisque j'ai trouver des textes de Jean Moulinet, qui est un grand rhétoriqueur du 15e, qui m'était complètement incompréhensible. Et j'ai voulu faire mon DEA à l'époque dessus, et j'ai été en contact avec un chercheur néerlandais, Yael Koopmans, qui a édité dans la foulée, en fait, ces textes, juste au moment où j'allais démarrer le travail. Et c'est lui qui m'a dit, il existe une centaine de textes dans toutes les langues d'Europe, et je vous laisse le terrain, parce que moi, je suis sur la farce. Donc, du coup, je me suis retrouvé à fouiller un terrain totalement inédit.
C'est la langue qui vous retenait, ou les...
Alors, c'est... oui, parce que c'est...
la pronostication elle-même?
Non, c'était la langue, en fait, c'est des jeux de cryptage, donc c'est très amusant, c'est comme des devinettes, finalement. Il faut trouver la clé pour décrypter le texte, qui en général prophétise des choses atroces, et une fois qu'on décrypte, ce sont des choses tout à fait banales en réalité, c'est des sujets tout à fait banals, et c'est une sorte de minor sensus, on dirait. Voilà, c'est-à-dire que normalement, dans l'exégèse médiévale, on va du minor sensus vers l'altior sensus, on monte dans les degrés de compréhension, et ces textes-là font exactement l'inverse, ils partent d'un haut sens, et ils vont vers un sens tout à fait trivial.
Alors, en ce qui concerne le haut sens, si on regarde la série littéraire donc que vous édifiez, là, notamment trois livres, 029 Marie, De la fabrication des fantômes et Acre perdu chez Anacharsis, on a le sentiment que vous travaillez là, alors, le concept du terrible magique est cité à votre propos, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous assumez, mais en tout cas, ça me semble toute une série sur le corps, la carne, la matière charnelle. Est-ce que c'est un projet de longue haleine sur ce thème, ou est-ce que, ma foi, le sujet s'impose selon les moments?
Alors, C'est pas réfléchi en amont, mais disons que c'est un sujet que je rencontre en écrivant. Je crois qu'il y a, il y a une sorte de confrontation entre la matière des mots et la matière du réel, et que j'essaie toujours de bien involontairement, mais de faire en sorte que le réel devienne l'écriture devienne charnelle, en fait. Et je pense que le fait d'essayer de toucher le lecteur presque avec ma main quand j'écris, du coup, m'amène forcément sur le sujet du corps, nécessairement.
Votre écriture tend vers une sorte de contact direct avec le lecteur. C'est pas une activité intellectuelle, mentale. Vous cherchez vraiment à susciter quelque chose de charnel.
Oui, soit de la réaction, soit par la rythmique, par les sonorités. J'essaie de faire en sorte que le lecteur soit impacté physiquement. Je prétends pas y arriver, bien sûr, hein, c'est une visée, mais c'est ce qui vraiment me porte dans l'écriture, ouais, d'arriver à briser la distance, en fait, entre mon travail solitaire, qui s'exerce sans le contact de personne, et le moment où ça rencontrera un lecteur.
Sixtine Aubert, c'est vrai qu'on a affaire à une écriture d'une compacité.
Oui, tout à fait, et qui est remarquablement, effectivement, architecturé, avec, alors moi, vraiment, une chose qui m'a beaucoup touchée dans ce roman en particulier, et que je suppose vous déclinez dans les autres, qui est finalement prendre à rebours le divorce qu'a prononcé, disons, le XXe siècle, entre l'esthétique et le scientifique, et refaire de l'esthétique quelque chose de l'ordre de l'expérimental. On sent très bien que votre... Et c'est dans le thème du roman et c'est dans votre écriture que la science est un art et qu'il y a une dimension réellement ancrée dans une perception à la fois effectivement et qui soit de l'ordre de la recherche et de tirer des choses de des perceptions, disons des choses élaborées et théoriques, et en même temps qui ne nie pas la dimension extrêmement plaisante et ou disons pas gratuitement plaisante de cet art. Voilà.
Franck Manuel.
Oui, l'idée, en fait, effectivement, je pense que ça se retrouve dans les autres romans. Je pense que ce qui m'attire, c'est les jargons. Les jargons techniques, les façons de parler que je vais pouvoir absorber pour en faire un matériau poétique, en fait. Et plus c'est étranger, a priori, à la matière poétique, et plus le défi m'intéresse. Et là, effectivement, c'était intéressant d'autant plus que le sujet s'y prêtait pleinement, puisque le personnage de Jeanne Petit-Collin, c'est ce que j'en ai déduit, du moins. C'est quelqu'un qui a cette aspiration à faire de la technique scientifique une œuvre d'art. Et en fait, il n'est pas le seul. À l'époque du 19e, fin 19e, début 20e, il y a vraiment une effervescence autour de l'art scientifique, en fait. Et les moulages, les écorchés, etc. Y compris, d'ailleurs, les cadavres, hein, puisque on sait par Zola, par exemple, que les gens faisaient la queue en bord de Seine pour voir les corps noyés. Et il y a une morbidité esthétique qui se prêtait parfaitement à ce que je peux rechercher, moi, dans mon écriture.
Des catacombes et du mystère. Alors, parlons un petit peu donc des précédents romans. On arrive peu à peu vers Eugène, 029 Marie. Là, c'est sur le contact, le corps intouchable, le corps paria.
Oui, c'est un projet un peu curieux, 029 Marie. En fait, j'étais tombé sur une bande dessinée, je ne sais plus ce que c'était, sur une case où un extraterrestre copulait avec une dame. et j'avais trouvé l'image assez sidérante, et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un roman érotique, parce que j'avais cette envie justement de charnalité. Et j'avais aussi envie d'écrire un roman de science-fiction, et j'avais démarré deux romans. Et finalement, je me suis dit que c'était peut-être mieux de les fusionner. Et donc voilà, c'est devenu un roman de science-fiction érotique. Et 029 Marie, donc, est un personnage qui vit dans un monde où tout contact charnel est prohibé, et qui va s'engager... C'est une chaîne télé qui l'engage pour avoir des relations sexuelles avec des extraterrestres à travers toute la galaxie. Et donc, on va décrire chacune de ces relations avec des créatures de plus en plus humanoïdes. En fait, on part de créatures très, très éloignées de l'homme. Et puis, on va s'approcher progressivement jusqu'à ce qu'elle rencontre un véritable humanoïde. Ça serait un peu décevant. Et l'idée, c'était de d'essayer de trouver dans cette horreur-là, malgré tout, quelque chose de beau et de poétique, d'esthétique. Alors, je ne sais pas si le pari est rempli, mais c'était vraiment l'enjeu. Et voilà, pour 029, c'est cette histoire-là.
Et la fabrication des fantômes, alors là, ça, on change complètement de
genre. Alors, de toute façon, je remarque au fil des romans que je change de genre systématiquement. Je ne sais pas trop pourquoi.
Pour le 029 Marie, c'est une bande dessinée où une femme fait l'amour avec un extraterrestre. Est-ce qu'il y a un impact? Le premier moteur, c'est quoi là?
Alors là, le premier moteur, c'est amusant. C'est une voisine, en fait, qui m'avait invité à boire l'apéritif. Ça, c'est le point de départ. Et qui me fait visiter sa maison et me dit il y a quelque chose de curieux dans mon grenier. Et en fait, elle a une pièce où il y a un mur qui est recouvert de revêtements à la chaux avec une fenêtre, et tout autour de ce mur il y a un journal qui est tenu à la mine de plomb, qu'elle a tenu visiblement pendant 8 ans. Donc c'est une femme qui a tenu ce journal pendant 8 ans. Et la dame en question était encore vivante, elle était vieille, et j'ai hésité à la rencontrer, puis je me suis dit que c'était mieux finalement de partir de ce que moi je pouvais imaginer à partir de là. Et donc j'ai inventé un personnage qui découvre le mur et qui entre en fascination devant ce texte, et qui va en fait, à force de le lire, va imaginer progressivement le geste graphique qui donne lieu aux lettres sur le mur, et du geste graphique, la main, et le bras, et petit à petit va faire surgir le fantôme de l'écriture, en fait. Et voilà, donc le mur en question, dans mon roman, je le fais s'effriter et s'effondrer, et à l'heure actuelle, il est recouvert d'un placo, et je pense que, humidité aisant, c'est ce qui est en train d'arriver. Il disparaît, donc je suis peut-être le dernier à avoir une trace de cette œuvre-là.
Vous publiez, au moins pour les trois romans que nous évoquons, aux éditions Anacharsis, très très bonne maison, notamment spécialisée dans les récits de voyage, médiévaux, modernes, et voire contemporains. Comment vous êtes entré en contact avec un éditeur? Il fait d'autres auteurs de fiction que vous, notamment le formidable italien Morandini. Mm-hmm. Je recommande absolument à nos auditeurs de lire Morandini si il y en a Carsis. Et là, comment vous êtes entré en contact? C'est toujours intéressant de voir comment un auteur de fiction va chez quelqu'un qui fait des sciences humaines ou de l'histoire.
Par défaut, puisque j'ai envoyé mon premier roman par la boîte aux lettres, en fait. Et alors c'est une anecdote un peu amusante. Donc le jour où en fait les éditeurs vous expliquent toujours que au bout de 3-4 mois s'il y a pas de nouvelles c'est que c'est mort. Et j'avais pas de nouvelles, donc j'avais remisé mon manuscrit qui était le premier. Et je crois que c'est 6 mois après que je reçois un coup de fil sur mon répondeur, à l'époque téléphone sur socle, et donc je rentre à la maison, j'entends ce message sur mon répondeur où il me dit qu'il a beaucoup aimé le roman et qu'il faut que je le rappelle. Et quand je prends mon téléphone pour le rappeler, le téléphone était mal posé, donc je n'avais pas de batterie, donc j'ai tourné en rond dans la maison comme un renard jusqu'à ce que ça charge. Et et il y a eu en plus un long quiproquo, puisque lui pensait que j'étais édité du coup. Et comme moi, il me disait rien, je pensais qu'il avait juste aimé, mais qu'il m'éditerait pas. Et ça a duré une petite demi-heure avant qu'on se mette d'accord.
Très bien, en tout cas, aujourd'hui, c'est Acre perdu, donc votre nouvelle collaboration avec Anacharsis, qui fait que vous êtes à mauvais genre.
«
On le trouvait à sa table, au fond de la salle de dissection, à toute heure. Il s'affairait là. Entrer, sortir, porter des caisses pleines d'organes plongés dans des liquides, pousser les tombereaux chargés de carcasses de chevaux, de vaches, de chiens, de bois, de planches, de copeaux, de gages, de plâtre, de pain de cire. Il sortait, fouillait dans des bassines, en tirait une mâchoire, une colonne vertébrale. Il passait dans les couloirs, précédé de ses chariots horrifiques, en maugréant contre ceux qui croisaient son chemin. On avait l'habitude des charognes, de la viande, mais petit Colin, c'était un peu le docteur Frankenstein. Christophe s'était distingué par la qualité de son travail en anatomie, si bien qu'il avait été désigné élève aide-préparateur. Le préparateur, c'était le kobold. La première fois que Christophe l'a rejoint dans l'atelier, Eugène s'échinait sur une forme indéterminée. Il lui tournait le dos. Le jeune homme voyait la tignasse noire, la nuque épaisse, la blouse qui flottait sur le corps. Au bout d'un moment, il s'est tourné vers lui et l'a fixé de son drôle de regard. Il avait des yeux de chinois à l'envers. Il lui a demandé s'il était bien Christophe. Christophe a dit oui. Et petit Colin a ajouté que Christophe ressemblait à quelqu'un qu'il avait connu. Quelqu'un de très blond comme lui. C'était un drôle d'échange pour démarrer.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà un extrait d'Acre perdu de Franck Manuel, notre invité d'aujourd'hui dans Mauvais Genre, autour du personnage d'Eugène Petit Colin. Alors là, on a la vision d'un personnage qui tient effectivement Frankenstein, le mot est cité, Dracula, le Minotaure, espèce de savant fou perdu dans une espèce de laboratoire un peu labyrinthique qui est l'école de vétérinaire de Maison Alfort. Comment vous vous êtes tombé sur lui? Parce que c'est pas fréquent, mais il y a des stars, il y a Fragonard, l'homme avec le cavalier, bon. Mais Petit Colin, faut quand même trouver.
Oui, et c'est un hasard. Il y a 4 ans, alors j'ai la chance d'avoir une épouse qui me traîne dans des musées bizarres. Et donc il y a 4 ans, elle m'a...
Merci madame.
Elle m'a conduit...
Grâce à vous, on a un bon livre.
À l'école vétérinaire de Maison Alfort pour voir ce musée. Elle voulait voir le moulage de Fragonard, l'écorché, enfin c'est le cavalier de l'Apocalypse, comme on l'appelle. Et pendant la visite, en fait, il y avait un audioguide et l'audioguide présentait régulièrement donc ce personnage de Petit Colin et ses œuvres en insistant sur la technique remarquable de moulage et en insistant aussi sur l'idée qu'on ne savait rien sur lui. Ce que j'ai pu vérifier ensuite en cherchant, effectivement, très très peu d'informations. Et je sais qu'en sortant du musée, j'ai dit à mon épouse, je crois que je tiens mon 5e roman.
J'ai eu des romans sur le Fragonard.
Et sur Fragonard?
Oui, je pense qu'il y a déjà y a eu des romans. Donc là, vous aviez trouvé votre...
Mon Fragonard à
votre
moi.
Votre monstre. Donc vous l'avez choisi parce qu'il était comme ça inconnu et qu'il proposait quelque chose d'un peu déviant par rapport à un univers déjà un peu dévié.
Oui, j'ai choisi surtout parce que ce qui m'intéressait, c'était la pulsion d'art qui me semblait qu'on pouvait voir à travers... En fait, dans les œuvres que fait Petit Colin, systématiquement, il y a un même cadre, un même fond bleu et sa signature. Et les œuvres qu'il fait, en fait, n'ont pas vocation normalement à être vues par un public au moment où il les fait. Elles sont, leur vocation, elle est scientifique, c'est pour aider les étudiants en école vétérinaire.
C'est comme l'écorché de laboratoire.
Exactement. Et donc, j'étais intrigué par l'idée que ce personnage avait l'air de vouloir élever ce travail au rang d'art ou considérer que c'en était. Et cette idée d'un artiste... peut-être talentueux, mais raté, finalement, me paraissait une piste à creuser. Et donc voilà, donc du coup, j'ai commencé à... Et puis, les œuvres elles-mêmes étaient tellement curieuses que c'était aussi fascinant à décrire, après. Il y avait aussi cette idée que ça pouvait donner l'occasion de descriptions assez ragoûtantes.
Disons. Oui, puisque Petit Colin a vécu donc au tournant des 19e et 20e siècles, à la pleine époque d'explosion, des recherches à la fois médicales, de réflexion sur l'organisme, les microbes et tout ça. Et donc, dans la thèse auquel je fais allusion, on voit, alors il y a la myologie du chien, il y a la myologie du cheval, on voit le cheval écorché avec tous les muscles dehors. Et puis, il y a des choses beaucoup plus délicieuses. Je ne dis rien, puisque Sixtine veut faire une lecture tout à l'heure. Fausto ?
Oui, bah, il y a une dimension charnelle qui effectivement est très prégnante dans le livre. Il y a aussi une dimension olfactive. C'est vrai qu'on a aussi la sensation de sentir le personnage. Et c'est assez intéressant. Je trouve que c'est un livre qui ne se donne pas facilement. C'est-à-dire que parce que le personnage est très opaque. Et puis ensuite, il y a cette dimension aussi polyphonique qui nous permet justement de le comprendre un peu plus jusqu'à la toute fin. Donc ça, je me retiens de pas en dire un peu plus parce que c'est vrai que la dernière partie du livre apporte un éclairage décisif sur le personnage. Et moi, ce que je voulais justement savoir, la question que je voulais vous poser, Franck Manuel, c'est comment vous avez justement dosé l'opacité du personnage, sachant que c'est très difficile pour le lecteur au début d'avoir prise sur lui. C'est-à-dire qu'on a ces descriptions qui sont absolument vertigineuses, qui sont très lourdes, et on essaye en fait de comprendre le personnage sans jamais trop y parvenir, jusqu'à un possible point de rupture. Or, ce point de rupture, moi en tout cas de ma propre expérience, il n'est jamais arrivé, donc tant mieux, mais c'est aussi un risque en fait que vous prenez.
Franck Manuel.
Oui, l'idée c'était en fait c'est parti de deux choses. Il y avait un constat un peu proustien, disons, sur le fait qu'on est l'accumulation des regards qu'on pose sur nous et qu'on n'existe pas tellement finalement, on ne sait pas trop qui on est. Donc si je lui donnais la parole à lui pendant le roman, ça voulait dire que je l'arrêtais en fait, je le figeais et j'avais pas envie de le figer tout de suite. Et puis je voulais pas non plus tricher avec le fait que ce soit justement une énigme, c'est-à-dire que comme on ne sait rien sur lui, il me paraissait plus intéressant de maintenir ce flou en fait tout au long du roman. Et donc la multiplication des regards permet des regards contradictoires parfois. Et on en a une image qui est très kaléidoscopique en réalité. Et alors le deuxième, en fait c'est un plagiat formel hein, puisque le deuxième élément qui m'a amené vers ce montage c'est le roman de Bolaño, Les détectives sauvages, qui est construit en trois parties et qui sont en fait trois parties exactement identiques à celles que je suis, notamment donc dans cette deuxième partie qui est polyphonique, sauf que chez Bolaño c'est des prises de parole à la première personne et que j'ai refusé ce principe parce que si je donnais la parole, en fait, il fallait une parole réaliste, en gros. Si je donnais la parole au personnage véritablement, aux différents personnages, il fallait une parole réaliste. Donc, il fallait un ton prosaïque, il fallait des tons différents. Et je trouvais plus intéressant de garder l'écriture poétique, en fait, y compris lorsque. Donc, on passe par des points de vue, mais on est toujours dans une narration à troisième personne, en réalité.
Alors, personnage colossal, avec des mains énormes, muré dans son silence comme Quasimodo ou la créature de Frankenstein, plus que le docteur, qui parle quand même pas mal, mais avec une histoire. Donc on le voit, le paysan de l'Est, extrême violence. Alors la vocation d'Eugène Petit-Colin, elle apparaît un jour de son enfance, où il va présenter, je crois, sa mère ou son père, un corbeau mort, dans lequel il a un peu trifouillé, il a mis ses doigts dans la tripaille du corbeau, et ça crée une sorte de nausée, de répulsion de la part des parents, mais lui, bon, il a l'air à plein de ça. Ensuite, il y a un autre moment du récit où il est schlitter, c'est-à-dire qu'il descend des tonnes de bois à dos, avec cette espèce d'appareil comme ça qui permet de descendre en freinant. Le dos freine la masse de bois. Donc quelque chose là qui, comme le disait Fausto, fait sentir la présence du corps. C'est le corps qui freine, donc la souffrance du corps, la masse du corps qui joue le rôle de frein. Donc ça, là, un autre moment, mais jusqu'au moment où il arrive enfin avec tout un travail déjà de un peu à la sauvage, un petit peu d'autodidacte autour de la préparation anatomique à Maison Alfort. Mais à aucun moment, je dirais, la dimension le corps n'est perdu de vue. C'est quelqu'un qui arrive le corps au vent presque.
Oui, alors déjà sur les matériaux, l'idée c'était de glisser en fait progressivement. C'est-à-dire qu'il démarre par l'organique véritablement. C'est-à-dire on n'est pas dans la réduplication du réel. En fait, il a les mains dans le réel. Et puis il va s'en éloigner progressivement pour être dans cette répétition, enfin dans cette réfection du réel. Et donc du coup voilà, on va passer de l'organe au bois, du bois à l'argile, de l'argile à la cire, de la cire au plâtre. Et puis on revient finalement, puisqu'on revient vers la peau à la fin. le corps de Gênes me paraissait enfin bon d'abord le corps de Gênes il vient d'une photo en fait, c'est-à-dire que quand j'ai démarré le roman j'avais créé un personnage malingre au départ, ouais. Et j'ai dû tout réécrire puisque au moment où je finissais le roman, j'étais dans la toute dernière partie, a été exhumée une photo de l'école vétérinaire de Toulouse, et c'est un colosse en fait, c'est un personnage extrêmement massif, et donc il a fallu tout reprendre, toutes les descriptions, et ce qui est amusant, c'est que du coup, je crois que ça lui donne une instabilité supplémentaire parce que j'ai conservé des traits d'une certaine fragilité par moment dans son corps. Bon, il y a des cicatrices, au début il est grand, le squelette est massif mais il est maigre. Et puis je l'étoffe au fur et à mesure pour le faire rejoindre sa photo en fait. Le corps, enfin l'usage du corps change, mais l'idée des Schlitter, bon d'abord c'était historique, hein, c'est-à-dire que dans les Vosges, là où il grandit, c'est l'occupation centrale à l'époque pour les hommes d'être Schlitter, ceux qui en ont la capacité physique, parce que c'est extrêmement extrêmement dur. Mais c'était aussi l'idée de l'étoffer en fait progressivement, de lui donner une présence physique plus grande. Et étant donné que comme on disait, il est un peu évaporé parce qu'il se construit au fur et à mesure du roman, le corps est ce qui l'ancre en fait, ce qui le rend prégnant pour le lecteur.
Et c'est pour ça que vous le décrivez d'ailleurs au fil du roman, c'est-à-dire que parfois on a une description de personnage principal au début et puis ensuite le romancier, l'écrivain abandonne en fait à l'imagination du lecteur le développement de ce physique-là. Or vous le décrivez régulièrement aussi parce que c'est un personnage qui me semble être quasiment en mutation permanente. En fait.
C'est ça, comme un monstre. Il y a vraiment cette idée-là. Il se met métamorphose pour s'égaler finalement, puisque l'idée c'est de faire que mon personnage fictif rattrape le personnage réel, donc du coup je duplique aussi hein, d'une certaine manière, et je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, cette idée de le faire bouger et puis de créer des refrains aussi, voilà, ça aussi c'était important pour moi. Il y a plusieurs refrains dans le roman, il y a des choses qui reviennent en fait, des micro-boucles qui font aussi un côté peut-être un peu incantatoire par moment, ou en tout cas qui vont structurer le roman pour lui donner un peu d'assise, vu qu'il y a trois parties qui sont très différentes, ça crée du lien en fait entre les différentes parties.
Un second extrait d'Acreux perdu de Franck Manuel, notre invité de ce dimanche dans Mauvais Genre, lu par Sixty Lautbert.
Enfin, il se tourne vers les voix qui commentent avec enthousiasme l'œuvre dans son dos. Il se faufile entre les épaules des hommes en s'excusant. La femme de Tramont et celle de Mazzoni se sont réfugiées à l'angle, près de la porte, et affichent des mots de dégoût. Il fait face, enfin, au cadre noir. C'est grand. Plus d'un mètre de haut, environ 80 centimètres de large. D'un fond bleu-gris s'extrait une forme monstrueuse, une sorte d'énorme coquillage mou, dont les tons roses, un strombe dans la coquille, serait de chair. Il ne comprend pas bien ce qu'il regarde. Il y a comme des viscères, une sorte de cerveau, le tout recouvert d'une pâte étirée. Dessous, une flaque bordeaux, un foie, sous lequel encore des cercles concentriques s'étalent, partant du crème et allant vers le rose, puis vers le rouge. Le tout a été verni de façon à donner une impression humide, de gluant. C'est un moulage en plâtre d'une remarquable complexité, une pièce extraordinaire, aussi laide que fascinante, proprement fascinante. Il a aussitôt envie de la posséder, quitte à supplier Barretta de la lui donner. Tout en bas, à droite, Petit Colin a signé au pinceau très finement d'un bleu plus foncé sur le fond bleu-gris. Il s'entend demander ce que c'est. Sa propre voix lui arrive de très loin, comme d'un tunnel noir qui se serait ouvert tout à coup devant lui. Barretta, sans se retourner, lance « Eugène, vous nous dites ?» Une voix derrière eux murmure, plus qu'elle ne dit, qu'il s'agit d'un testicule cryptorchide cancéreux de cheval. Sa réponse est aussitôt accompagnée d'exclamations, d'applaudissements. Tramont répète « C'est énorme, tout simplement énorme !»
Thank you. Voilà un extrait d'A Creux perdu lu par Sixtine Audebert. Là, c'est le chef-d'œuvre du Compagnon, Sixtine.
Oui, c'est ça, c'est le chef-d'œuvre. C'est effectivement le chef-d'œuvre au sens étymologique. C'est sans doute une de ses pièces maîtresses et d'accomplissement de formation. Mais c'est vrai qu'on a déjà un peu parlé de tout ça. La perception du monde d'Eugène Petit-Colin, on la voit quand même à un moment aussi de manière assez explicite lorsque le maître tombe sur un de ses carnets de dessins d'enfants. Ça donne lieu à une description que j'ai trouvée assez étonnante. J'arrivais pas très bien à me figurer réellement cette espèce d'embrouille à mini de lignes, de formes géométriques qui s'est superposée. Et j'ai trouvé ça complètement fascinant. Est-ce que vous aviez pas du tout de dessin préparatoire en tête ou de vous êtes inspiré de quelque chose pour
En fait, oui, j'ai pris des photos d'animaux morts.
Ah oui,
voilà.
Que vous avez réduit
que j'ai réduit à des schémas en fait, et en passant de la 3 dimensions en 2 dimensions, et en me disant ça donne quoi si on met ça en aplat, et en me disant si lui le voit en aplat en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'il n'essaie pas dans les dessins que je décris, l'idée c'est qu'il n'essaie pas de donner encore le relief, mais qu'il est vraiment dans une perspective en 2 dimensions. Et effectivement ça donne des dessins qu'on a du mal à imaginer, ça je veux bien croire,
et
qui donnent aussi des sortes de poèmes en prose pour moi qui n'ont pas de sens, mais qui sont des espaces visuels en fait qui s'ouvrent sur la page. Ce qui m'a amusé, c'est de justement là aussi de passer de cette incompréhension globale en fait autour de son œuvre à ce moment de reconnaissance que vous venez de lire, et à finalement son rêve d'artiste qui se brise aussitôt, c'est-à-dire que immédiatement après il n'a pas de reconnaissance, au final la reconnaissance à laquelle il aspire n'arrivera jamais de son vivant, ses œuvres sont exposées au musée mais elles sont exposées comme des œuvres scientifiques et jamais comme des œuvres artistes.
Oui, mais donc ça veut dire que vous produisez quand même tout un à côté de l'œuvre qu'il faudrait voir à éditer avec le roman. Ça serait vraiment fascinant d'avoir vos dessins préparatoires et même la photo d'Eugène Petit-Colin en comparaison du roman.
Donc, Carzis, ça c'est une version collector luxe. Mais alors effectivement, on a parlé du physique, du personnage, de sa vie, cet homme qui vient de l'Est jusqu'à pour devenir une figure un peu maudite et en même temps une vedette de l'école de vétérinaire de Maison Alfort. Mais son œuvre, puisque rappelons quand même qu'on est dans l'utilitaire, c'est-à-dire qu'il y a là des professeurs éminents, nous sommes sous la Troisième République, qui ont des chairs comme ça à Maison Alfort et qui commandent vraiment, il y a 5 ou 6 professeurs qui commandent, comme on commanderait un outil, à Petit-Colin. Et donc, lui, il l'obéit, il fabrique ce qu'on lui demande de fabriquer, et c'est dans cet interstice entre son acte de création et puis la commande officielle d'État que apparaît son imaginaire, quoi. C'est ça, parce que c'est quand même un personnage qui est là pour obéir.
Oui, il est là pour obéir et il le fait en réalité. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il produit au-delà de la technicité reste des organes d'animaux qui sont présentés pour en voir les maladies, pour en comprendre la structure. Ce que je prête à Eugène Petit-Colin, c'est une sorte de mystique de l'intériorité, voilà. En fait. C'est-à-dire que il voit dans l'intérieur des créatures une sorte de monde. Et peut-être même une morale, c'est-à-dire qu'il il voit dans les organes la possibilité de comprendre les êtres, dans le sens où pour lui chaque organe serait comme un organe de pensée en fait, et il cherche à percer ça, cette énigme-là des organes. Et c'est évidemment voué à l'échec, et ça va le poursuivre. Et alors, ce qui est amusant, c'est le fait, en fait, finalement, la situation réelle me permettait de générer encore mieux l'échec, puisque le fait qu'il se consacre à des animaux alors qu'on sent que sa mystique cherche l'âme humaine, en réalité, celle avec laquelle il a tant de mal, lui, à entrer en contact, d'ailleurs, puisqu'il est très solitaire et il est maladroit. Mais du coup, l'échec était déjà inscrit dans le choix même du matériau, finalement, c'est-à-dire de travailler sur des animaux et pas sur des humains. Et les mouleurs qu'il rencontre sont tous des mouleurs qui travaillent sur l'humain, quasiment. Notamment Jules Barretta, qui était très célèbre en son temps, et qui, lui, a un succès monumental. Mais parce qu'il travaille sur les maladies de peau et sur des visages humains, et ça fait fascine, alors que les organes d'animaux ont l'air de ne fasciner pas grand monde, en fait.
Oui, parce que si on prend, je me souviens de l'extraordinaire exposition devant le Centre Pompidou des cires anatomiques du docteur Spitzner, qui était une espèce de chose extraordinaire, avec la césarienne, là, qui est une espèce de mannequin de femme, avec plusieurs mains tout autour d'elle, qui pratiquait une césarienne, ça avait beaucoup marqué les surréalistes, d'ailleurs, ou alors toutes les maladies vénériennes, il y avait du rab, c'était la farandole des maladies vénériennes. Ça, c'est quelque chose fait que tous ces objets qui sont des objets utilitaires, comme l'Igirichier, le docteur Ozou, avec là aussi son atelier de cire anatomique, Fragonard, tout ce qui était créé pour apprendre la science s'éloigne puisqu'elle change de forme, mais par contre restent les fantômes. La science nous lègue ses fantômes.
Oui, la science nous lègue ses fantômes. Alors ça remonte à loin, puisque en fait les moulages de Fragonard étaient déjà considérés comme des œuvres d'art. On sait que son écorché, son cavalier écorché, était présenté au Louvre. Les gens venaient le visiter, entouré d'écorchés de nourrissons posés sur des moutons. Donc il y avait déjà une mise en scène du macabre et des travaux qui avaient pourtant une destination normalement scientifique. Il y a une porosité en fait qui s'opère très clairement entre science et art. Mais on la trouve en littérature avec le naturalisme. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une période où tout ça se mêle de façon assez évidente. Ouais.
C'est ce que j'essayais de dire au début de l'émission, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a prononcé vraiment au XXe siècle le divorce entre science et art, mais qu'à l'époque, le romantisme est d'ailleurs fortement appuyé sur des théories scientifiques de la perception visuelle et de la perception et de la mise en contact, du médiatique naissant, effectivement, c'est uniquement parce que désormais on a accordé une histoire et une forme muséale de la création qu'on n'a pas gardé finalement les innovations successives qui ont été les fleurons du positivisme scientifique de l'époque.
Exactement, oui. Et l'idéologie qui va avec, puisque en fait finalement l'art scientifique a classifié, normé, genré, et a fini par accompagner en tout cas une idéologie qui va conduire à l'idéologie nazie en fait. C'est-à-dire que la phrénologie, le génisme, exactement.
Galton, c'est...
Voilà. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une histoire du 19e à faire encore. Peut-être elle a été faite et j'ai pas lu, mais en tout cas, à partir des matériaux, à partir de ces œuvres-là, et encore aujourd'hui, on s'intéresse aux œuvres pour ce qu'elles montrent. Et rarement pour les matériaux qui la composent, alors qu'en fait, c'est passionnant de voir une œuvre sur les matériaux.
Bien. Alors, petit Colin, c'est tout ce qu'on veut, Minotaure, Dracula, bon, mais c'est quand même un citoyen français de la Troisième République, donc il se marie. Vous décrivez, alors, quand il fait l'amour, c'est extraordinaire, c'est une scène, parce que...
Très beau moment, ouais.
Oui, c'est fascinant, cet homme ne peut pas faire l'amour comme n'importe qui d'autre.
Il cherche encore à percer les mystères du corps, même dans son intimité.
Ouais. C'est-à-dire que là, le question questionnement anatomique perdure dans des moments. Je crois qu'à un moment il touche le corps d'un de ses amis, mais comme si c'était un objet. Il fait rouler les muscles, il teste les tendons, il palpe les os. Et pareil, Madame Petit Colin aussi est aussi expertisée, si j'ose dire.
Mais il y a un jeu de miroir parce qu'elle l'expertise de lui aussi en fait. C'est ça qui est intéressant.
Par amour en fait, on sent qu'elle rentre dans sa logique.
Une sorte de mimétisme affectif.
Quoi. Et elle accepte sa danse en fait, parce que sinon il y avait une relation. Enfin, l'idée était quand même de conserver entre eux. C'est là, le seul personnage avec Barretta où il entre vraiment pleinement en communication. Et donc, il fallait, dans ce moment d'étrangeté, il fallait quand même qu'il y ait une tendresse, en fait. Et du coup, le seul moyen, vu les gestes qu'il opère, le seul moyen, c'était qu'elle les opère en retour, effectivement. Oui.
D'autant plus que du ménage Petit Colin naît un garçon qui mourra à la Première Guerre mondiale. Donc cet homme qui a passé sa vie à charrier des carcasses, à se confronter à la mort, à essayer de travailler sur de la chair morte, expérimente aussi, lui, à un moment, ce qu'est quand sa propre chair devient morte, quand son fils meurt au combat.
Oui, il perd coup sur coup en 2 ans, et sa femme et son fils. Et donc on peut aisément imaiser... ce que ça peut être en termes de douleur, mais dans le roman, je ne fais pas un très bon père en réalité, donc du coup la mort de son fils n'est pas ce qui l'affecte le plus, mais la mort de sa femme le dévaste totalement, oui, et le transforme à nouveau.
Sixtine.
Bah, c'est vrai que vous disiez qu'effectivement, c'est les seules personnes avec qui il a un contact. Mais on sent quand même que grâce à cette perception singulière et décalée, il en arrive à entrer finalement en contact aussi avec des choses plus fondamentales, puisque les personnes dont il s'entoure sont aussi fondamentalement bonnes. Que ce soit son épouse ou...
Enfin, dans son cercle proche, oui, mais alors à Maison Alfort, oui, non, il y a la moquerie des élèves, malgré qu'à un moment, il défend un élève qui s'est moqué de lui. Une espèce de, pas de mépris, mais de... comme les professeurs le regardent quand même comme un personnage. Ils l'admirent, mais en même temps, personnage singulier. Il y a toute une approche sociale de Petit Colin qui est assez étonnante.
Oui, un artiste maudit, en fait, mais c'est une sorte de Baudelaire.
J'ai pensé en lisant un souvenir de lecture...
De l'Albatros.
Pas l'Albatros, non, mais alors, c'est plus récent, c'est juste Skin, j'ai pensé au parfum, dès les premières pages, avec cet effet répulsion et en même temps cette hypersensibilité, hypertrophie de la perception qui m'a... Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez en tête.
Je l'ai lu, mais ça m'a peut-être traversé sans... Oui, c'est un compliment, oui, ça c'est sûr. Je l'ai lu, mais je n'y ai pas pensé consciemment en tout cas, mais c'est possible que ça m'ait travaillé en sourdine.
Pour finir, Fausto. Alors ça, on finit quand on est petit câlin, on finit au musée vétérinaire d'Alfort. On peut aussi finir dans les colonnes de Mad Movies. Il y a comme tout un cinéma sur les cires anatomiques.
En tout cas, le livre est très stimulant d'un point de vue visuel. Et c'est vrai qu'on s'imagine pourquoi pas un biopic autour de ce jeune petit câlin. C'est vrai que ce serait assez compliqué à vendre ça à des producteurs. Mais en tout cas, il y a de toute façon, l'école vétérinaire Maison Alfort a une vraie dimension cinégénique, ça c'est certain. Et le personnage, alors moi je le rapprocherais aussi du golem, hein. C'est-à-dire qu'il y a il y a quand même quelque chose un peu golémisant dans le personnage. Et puis oui, effectivement, le spectre de la Première Guerre mondiale. Enfin moi je veux juste revenir sur le fils, parce que c'est il y a un moment je me suis dit mais tiens, j'ai dû rater un passage parce que j'avais lu la quatrième de couverture, et puis en fait je ne voyant jamais apparaître le fils dans l'histoire, et vu qu'il apparaît très tardivement, je me suis dit mais tiens, est-ce que j'ai raté un passage? Est-ce que c'est un père fantomatique? Et oui, c'est un père fantomatique. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, il se rend compte de son existence qu'à la suite du décès de sa femme et de son fils. Et cette prise de conscience subite qui arrive vers la fin du livre, comme je le disais en fait en préambule, apporte un éclairage décisif sur l'ensemble du roman. Ouais.
Barbier lui a avoué ne pas savoir comment Petit Colin en était venu au métier de préparateur, au moulage. Il lui a en revanche raconté longuement les ambitions du bonhomme. Son rêve d'une œuvre parfaite qui reflèterait très exactement le monde intérieur de l'animal. Petit Colin, lui, a dit Barbier, avait une vision. Il plongeait dans la mort. Il plongeait en profondeur dans la chair, et quand il en remontait, c'était pour créer ces formes bizarres qui, si on ignorait de quoi il s'agissait, paraîtrait totalement irréel. C'était cela, affirmait Barbier, la grande idée de Petit Colin. Faire surgir la chimère qui gît sous la peau dans le corps de l'animal. Voilà un extrait, troisième, de Franck Manuel à Creux perdu, où la vie extraordinaire et l'œuvre phénoménale d'Eugène Petit Colin aux éditions Anacharsis. Rassurez-nous, Franck Manuel, le prochain livre sera encore plus étonnant.
Je travaille sur une utopie. Une utopie où les gens sont payés à égalité et où le genre a disparu. Donc je suis obligé d'inventer une langue qui corresponde.
C'est beaucoup plus austère.
On va voir. C'est amusant en tout cas à faire, et ça m'oblige à créer une langue dans la langue. L'idée est d'accueillir le lecteur avec la langue que nous parlons tous, et de
vous retourner aux joyeuses pronostications,
un petit peu voilà.
Sur la langue
et intégrer progressivement donc cette langue nouvelle. Et voilà. Donc j'en suis là.
Très bien, ben on restera attentif évidemment à tout ce que vous publierez, puis éventuellement l'aventure de votre texte, parce que, répétons-le, ça ferait une bande dessinée, un récit graphique, un film tout à fait étonnant. L'histoire d'Eugène Petit Colin, donc de Franck Manuel à Creux Perdus. C'est aux éditions Anacharsis, dont d'ailleurs le fréquenter le site d'Anacharsis, il y a des surprises intéressantes. Chronique maintenant dans Mauvais Genre et on commence avec vous, Sixtine Audebert.
Oh ma solitude, ma maîtresse, ma traîtresse, ma peste. Tu t'accroches petite, tu t'accroches. Accroche-toi, accroche-toi bien. Ma solitude, c'est à cause de. Je sais, je me souviens, mon amnésie s'éteint. Je suis né un soir de septembre, entre deux SS. Alors ma solitude, poussez-moi la peste, poussez le camp. Je vous interdis de pénétrer chez moi. Je vous interdis de me poser des.
Alors, avec ce magnifique extrait de Ma solitude d'Alain Kahn, je vais aujourd'hui saluer le remarquable travail d'enquête accompli par Philippe Roisès, désormais couronné par l'édition d'un magnifique ouvrage collection d'archives chez Séguier, autour de la figure Rock and Destroy de ce chanteur français, disparu en 1990 sans laisser de traces, après une carrière ponctuée d'un succès scandale. Le jeune homme, possédé par l'absence du père et le désir de reconnaissance dans l'industrie musicale française qui se transformait alors sous le greffon anglo-saxon du rock'n'roll, a traversé l'âge débilitant du yéyé en minet croonant sur des disques de Decca, puis en trublion androgyne du cabaret à l'Alcazar. À la faveur d'un voyage à Londres, il s'est mué en adorateur mimétique de Bowie, à la beauté pute et vénéneuse, et ses performances se sont ensuite faites de plus en plus sombres et attentatoires, annonçant le heurt du punk, où là il va se mettre à éructer de manière hystérique et inquiétante, comme on a pu l'entendre, des vers qui sont trop précieux, tutoyant le fureur et titillant la folie de sa voix déraillante. Alors la recherche que Philippe Roisès a menée a été initiée par la réalisation d'un documentaire sur notre chaîne, joliment intitulé « Le dernier bras d'honneur d'Alain Kahn ». Et elle aboutit aujourd'hui avec la publication d'un livre rassemblant une introduction historique et des documents exhumés, aussi cocasses qu'incontournables pour pénétrer la psyché tortueuse du garçon, comme ses auto-interviews et ses dessins qui sont d'une candeur prétentieuse, quelques photographies où l'on devine ses bleus yeux caves fardés d'héroïne et un carnet central. Un roman inédit à transparence autobiographique qui s'intitule « L'enfant veuf ». Alors que dire de ce manuscrit, qui est donc le clou de la publication ? Eh bien, c'est d'une écriture fin de siècle, hautement sous influence, de Pacadis à Adrien en passant par Guillaume Serpe. Mais ce n'est pas du meilleur goût, et c'est souvent même assez ringard. Le narcissisme bavard de son alter ego possède une qualité onanique, Kahn épanchant dans son tandem homo-érotique destructeur baptisé Jules et Jim, sa solitude d'animal nocturne traqué. Le renflement élégiaque des phrases, grevé d'adjectifs superfétatoires, ployant sous l'hyperbole, n'atteint pas, malgré quelques fulgurances crépitantes, l'intensité terrifiante de ses chansons, sous perfusion électrique, de se suicider pour la société. Alors je recommande à tous les complétistes cette lecture, et je recommande à tout curieux cette lecture également, mais obligatoirement accompagnée de l'écoute des disques de Kahn, et je recommande également donc les autres émissions de Philippe Roisès sur notre chaîne. Il y en a une dédiée à la radio Carbone 14, une au studio d'Hérouville, une à Gary Glitter, j'en passe, et des meilleurs, donc n'hésitez pas à faire une petite recherche.
Ma solitude, c'est à cause de. Je sais, je me souviens, mon amnésie s'éteint. Je suis né un soir de septembre, entre deux SF. Alors ma solitude, poussez-moi la peste, poussez le camp. Je vous interdis de péter.
Extraordinaire ce personnage qui un jour descend dans le métro. Et disparaît.
On en entend
définitivement.
On ne sait pas, on hésite finalement. Est-ce que c'est un suicide ? Il se serait peut-être jeté dans la Seine pour justement mettre fin à ces insuccès et aussi peut-être une maladie qui se déclarait à l'époque. Est-ce que c'est un meurtre de son compagnon Hubert qui était un octambule aussi étrange que lui ?
Et on n'a jamais retrouvé son corps donc ?
On n'a jamais retrouvé son corps, non. Il a été déclaré mort en 2000.
C'est le début d'une histoire, ça en tout cas.
Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Luc Manuel, ces gens qui disparaissent, c'est un peu pour vous, ça.
Ça, c'est un peu pour moi, ouais. Il y a un sujet. C'est toujours fascinant de voir en fait, c'est toujours pareil. On rêve de spectre, en fait, constamment. C'est-à-dire que finalement, ce personnage devient un personnage spectral.
Moteur à fantaisie, ouais.
Ouais, c'est ça, un moteur à fantaisie. Et puis, avec, une présence-absence, du coup. Et moi, ça m'intrigue beaucoup, toujours, ça. C'est les traces laissées, la musique, les gens qui sont défunts, mais donc qu'on peut encore entendre. Je trouve ça toujours assez magique et terrible.
Alex Garland.
C'est une transition.
Il le montre.
Moi qui voulais rebondir sur Sixtine en disant beauté pute et vénéneuse et trouver la formule parfaitement, parfaitement jolie. Bravo. Alex Garland, oui, il existe, tout à fait. Première existence en tant que romancier, par ailleurs. Puisque l'idée, quand même, c'est de parler du film Civil War, qui est le film intéressant du moment, avec une personnalité tout à fait passionnante, donc Alex Garland, qui a commencé par l'écriture et qui écrit d'ailleurs aujourd'hui toujours ses films. Il est réalisateur et scénariste. Alors on le connaît d'abord et surtout pour sa collaboration fructueuse avec le cinéaste britannique Danny Boyle. Alex Garland est anglais, hein. D'ailleurs c'est un éclairage assez intéressant sur son œuvre et sur son film. Il a signé notamment les scénarios de 28 jours plus tard, de Sunshine. Alors La Plage, c'était lui l'auteur du livre original qui a été adapté. Et puis ensuite, il a continué aussi à travailler sur des scénarios divers, comme par exemple celui du film Dread. Et puis il s'est lancé dans la réalisation. Son premier long métrage, c'était Ex Machina, qui était une réflexion en avance, je ne sais pas, mais qui anticipait en tout cas de grands questionnements que nous avons aujourd'hui concernant l'intelligence artificielle. Parce qu'Alex Garland, c'est ça, c'est quelqu'un de très cérébral, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est un homme de concept. Et ce qui est assez intéressant avec Civil War, c'est que là, il est vraiment dans le strict empirisme. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué de ça, parce qu'il est à la fois dans l'empirisme, puisque c'est quelqu'un qui a été aussi backpacker. Quand il écrit La Plage, il se base sur ses propres expériences, et c'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est un cérébral. En interview, c'est pas forcément un joyeux drill. Si vous voulez vous amuser, regardez un peu les interviews qu'il a données récemment à la télé américaine pour Civil War. Vous verrez à quel point il y a une rupture entre sa personnalité et celle des présentateurs américain, où on voit qu'ils ne sont clairement pas sur la même fréquence. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui réfléchit beaucoup aussi dans le genre qui nous intéresse, dans les genres qui nous intéressent, c'est-à-dire les mauvais genres. Et là, avec Civil War, il s'attaque donc à une dystopie. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu une facilité critique, c'est de se dire, ah bah tiens, Civil War, il nous refait une guerre civile américaine, la fameuse fracture nord-sud. Là, pour le coup, la fracture, elle est même complètement ouest-est. Mais ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que finalement, il a choisi les États-Unis parce que c'était le décorum, si je puis dire, qui était le plus commercialement parlant et le plus commercialement viable pour lui en tant que cinéaste. Mais il le dit très clairement en interview, son histoire aurait pu se passer dans plein d'autres pays. Alors l'histoire, en bref, on suit une médiaresse, un groupe de reporters de guerre qui est censé donc couvrir une guerre civile qui éclate aux États-Unis quand on ne sait pas trop, pourquoi on ne sait pas, et c'est justement là la qualité du film. Je vous le disais, je me permets de pénétrer un peu les coulisses de Mauvais Genre, François, au café il y a quelques heures, que finalement cette espèce de bloc comme ça, un peu sidérant d'action, me laissait un peu impuissant, c'est-à-dire que il n'y a pas énormément de choses à dire sur le film, tellement il est viscéral, tellement il parle au corps, et ça devrait justement faire sens chez vous, Franck Manuel. Et c'est justement, je trouve, la grande force du long métrage, c'est de laisser en fait au spectateur y projeter, y voir et y interpréter ce qu'il veut. Et ça, c'est une preuve de très grande intelligence que le cinéma américain a un petit peu de mal à exposer ces derniers temps, où on a souvent des films qui justement déploient leur thèse quand ils en ont une, ou leur spectacle de manière assez mécanique et méthodique. Or là, on a quand même un film qui, au-delà de son côté spectaculaire, nous laisse à réfléchir, nous laisse à penser et nous laisse un peu pantois aussi à la fin.
Dossier donc dans Mad Movies.
Et interview d'Alex Garland, effectivement, dans Mad Movies.
Interview. Merci Fausto, merci Franck Manuel d'avoir été en ce dimanche l'invité de Mauvais Genre. Je recommande tous vos livres aux éditions Anacharsis, puis je recommande aussi Anacharsis, surtout dans le dernier, Acre perdu, l'histoire du phénoménal personnage qui est Eugène P. Petit Colin. Et puis également le livre A sur Alain Camp par l'édition Séguier. Et puis Civil War, donc à voir en salle ou à voir, à découvrir bientôt en DVD et Blu-ray. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Ponneret, Ludovic Auger, Claire Poissignon, Sixtine Audebert, Claire-Martin Lugard, Fausto Fazulo et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. Mm-hmm.